Irène Fernandez. Louis Armstrong vous rappelle votre jeunesse.
Oui, j'ai choisi ce morceau parce que lorsque je suis devenue chrétienne, j'ai eu un sentiment de libération extraordinaire, de sortir d'un monde intéressant, sympathique, où je n'avais jamais vraiment eu de souffrance particulière, mais très étroit, et d'entrer dans un univers immense. Et ça, au fond, je trouve qu'Armstrong l'exprime très bien.
Alors c'est amusant votre remarque, parce que ça va tout à fait à l'encontre de ce que dit, de ce qu'écrit Michel Onfray, pour lequel le christianisme, et particulièrement le catholicisme, est un enfermement complet, et ce n'est parce qu'on est athée qu'on libère le corps, les forces de la jouissance, etc., etc. Alors nous y venons, parce qu'effectivement, en 2005, aux éditions Philippe Ray, vous avez publié un ouvrage qui va peut-être faire du bruit, Dieu avec esprit, qui est une réponse à Michel Onfray. On a l'impression que vous avez attrapé un coup de chaud ou un coup de colère, enfin, pas de colère, c'est un péché capital, un coup de chaud, disons plutôt, en lisant le dernier livre de Michel Onfray, qui est son traité d'athéologie.
Oui, bon. On peut dire un coup de chaud, si vous voulez.
Coup de chaud. Alors, la question c'est, pourquoi lui répondre? Parce que, comme vous le savez, toute réponse peut appeler éventuellement encore une réponse. Est-ce que ce débat, selon vous, est vraiment nécessaire?
Il me semble que oui, j'ai bien réfléchi avant de commencer cette entreprise. Et d'ailleurs, j'ai écrit au début pour quelles raisons j'essayais de répondre. Enfin, j'essayais, je crois que je lui réponds tout à fait à Onfray, parce que j'ai le sentiment, étant donné le succès de son livre, que beaucoup de gens s'informent sur la religion en général, le christianisme en particulier, dans ce livre. Or, le livre d'Onfray, indépendamment des positions qu'on a sur la croyance en Dieu ou l'athéisme, c'est quand même un tissu d'approximation, d'erreurs, de faux sens, enfin, c'est vraiment monstrueux intellectuellement.
Vous en relevez beaucoup, donc si je comprends bien, il y a à la fois dans votre volonté de démonter sa mécanique, il y a à la fois votre choc intellectuel, vous trouvez que intellectuellement ça n'est pas sérieux de dire ceci, ceci, oui, cela, et puis il y a en même temps le coup que vous recevez en tant que croyante.
Certainement.
Il y a les deux, mais vous arrivez à concilier les deux.
Je crois qu'on peut, mais il est certain qu'en tant que croyante, même je crois, qu'être humain tout court, je ne crois pas que traiter Jésus d'ectoplasme soit particulièrement intéressant intellectuellement.
Alors, vous faites trois principaux reproches à Michel Onfray, trois points principaux, et vous allez, au cours de votre ouvrage, reprendre chacun de ces trois points. Le premier, c'est un argument qu'on entend assez souvent d'ailleurs, et qui sur le plan historique a sa raison d'être. Mais vous allez pouvoir y répondre d'abord sur un plan théologique. C'est que le christianisme a été la conséquence de massacres et de flots de sang. Alors il faut en répondre sur un plan théorique et philosophique en quelque sorte. Est-ce que c'est contenu dans les textes et dans les principes? Et puis ensuite de voir dans la réalité historique ce qui s'est passé.
Je ne crois pas qu'on puisse dire que le christianisme est la conséquence de flots de sang. D'après Michel Onfray, il est au contraire à la source de flots de sang, si je puis dire. Alors ça, Onfray joue sur deux niveaux sans arrêt. Il y a le niveau historique où l'on peut essayer d'isoler les fautes, les erreurs, les crimes éventuels des croyants. Et ça, il y en a. Il y a des crimes historiques sans aucun doute. Il y a des guerres de religion, il y a tout ce que vous voulez. Et d'autre part, l'idée que tout cela est inhérent au christianisme. Et là, ça c'est ce que je conteste tout à fait. Aussi bien d'ailleurs dans les faits que dans l'idée.
Mais quelle est cette notion de guerre juste dans le christianisme?
Non, mais ça c'est encore une idée à la Onfray. Il attaque saint Augustin parce que saint Augustin a parlé de guerre juste en bornant à injurier saint Augustin, ce qui est quand même insuffisant comme argument. Et deuxièmement, il la confond dans son paragraphe avec l'ordalie, c'est-à-dire ce qu'on appelait le jugement de Dieu. Vous savez, quand on mettait les gens à se battre, et le plus fort était supposé avoir raison. Mais l'idée de guerre juste, c'est une idée technique développé un petit peu au XIIIe siècle, mais surtout au XVIe, dans le contexte des guerres de religion, ce qui est intéressant, aussi bien par des catholiques comme Vitoria ou Suarez que par des protestants comme Grotius, qui ont essayé de réfléchir sur la question et de savoir à quelles conditions, dans quel cas, on pouvait dire qu'une guerre était juste. Et d'ailleurs, il s'interroge. Et c'est pas une espèce de dogme tout fait, etc. Et c'est quand même tout un corps de doctrine qui est à l'origine du droit international, des efforts peut-être insuffisants, mais enfin pour édifier un ordre où on se massacre pas tous azimuts tout le temps. Je reconnais qu'on n'y réussit pas toujours, mais enfin quand même c'est bon. Alors jeter tout ça à la poubelle en un paragraphe, en le confondant avec Lord Ali, où c'est le plus fort qui a raison, comme si l'idée de guerre juste c'était le vainqueur a raison, ça c'est absolument monstrueux. Et donc, ça c'est monstrueux, j'allais dire historiquement.
Donc Lord Ali, même si elle a été utilisée par l'Église, Lord Ali pour vous n'est pas chrétienne.
Mais Lord Ali, d'abord elle n'a pas tellement été utilisée par l'Église que ça, elle a été utilisée à certains moments, dans certains cas, l'Église franche.
Dans certains procès aussi.
Non, ça alors, il n'y a pas de... Non, ça c'est... je m'inscris en faux. Puis de toute façon... Ça, il faudrait voir historiquement si d'un tel et tel point ça s'est fait. Ça n'a strictement rien à voir avec l'idée de guerre juste. C'est même une idée qui n'est jamais passée par la tête des gens dont je vous parle. Enfin, parler de Suarez, Vitoria et Grotius à des juristes actuels, vous verrez ce qu'ils en pensent. Enfin, c'est quand même pas du tout... Dans l'idée d'Ordali, c'est vraiment l'idée que le plus fort a raison. C'est d'une certaine façon le droit du plus fort. Alors, il y a des choses comme ça dans Pascal aussi. On a fait que le fort... fut juste, mais ça c'est parce que Pascal est cynique, si vous voulez. Mais l'idée de guerre juste, c'est tout simplement autre chose. Donc ça, c'est indépendamment de ce qu'on pense de la question.
Et c'est par rapport à une morale, donc par rapport à un système de valeurs.
C'est par rapport à un système de valeurs, bien sûr. Ouais. C'est qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de tout faire dans une guerre, on n'a pas le droit de tuer des gens qui ne sont pas combattants, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi aux prisonniers, enfin, etc. Tout ça, ça s'est élaboré peu à peu. Et c'est extrêmement intéressant dans le contexte aussi de la colonisation espagnole dans le Nouveau Monde, où justement Vitoria et Suarez ont défendu l'idée finalement que tous les hommes sont des êtres humains et qu'ils ont donc des droits. C'est aussi à l'origine d'une pensée quand même extrêmement moderne et importante, qui est celle des droits de l'homme et leur pensée, pas simplement sentimentalisée, si vous voulez.
Voilà, donc ça sur le plan de la réflexion, sur le plan de la réalité, quand vous voyez les deux millénaires de culture chrétienne dans les différents pays d'Europe et ensuite pays d'Amérique, vous ne voyez pas la paix régner.
Non, mais je ne vois pas non plus la guerre régner. Vous voyez, il s'agit de savoir, quand on pense au christianisme, à quel niveau on se place.
La conquête de l'Amérique latine s'est faite au nom du Christ roi. Et ça n'a pas été tendre pour les pauvres habitants amérindiens.
Pour le Christ roi, c'est plutôt franco. Hein.
Oui, c'est en fait, plutôt moderne. C'est avec la bannière du Christ et l'idée d'évangéliser, c'était le prétexte. Alors, vous allez pouvoir me dire que l'homme s'est toujours servi d'une valeur pour pouvoir justifier ses mauvaises actions.
Oui, mais les fautes éventuelles, que d'ailleurs qui sont très faciles pour nous. Vous voyez, c'est très facile de critiquer nos ancêtres. Bon, après tout, moi, je n'existerais pas si les personnes n'étaient jamais allées au Mexique, puisque je suis d'origine mexicaine. Et il est certain qu'il y a eu des abus considérables, mais il n'y a pas eu que des abus.
Il n'y a pas eu que des abus, mais enfin, disons que les siècles de christianisme n'ont pas été la mise en application de l'Évangile.
Oui, mais écoutez, ça, vous m'entraînez très loin. parce que qu'est-ce que l'Évangile et qu'est-ce qu'il faut appliquer ?
L'amour du prochain.
Oui, mais en quoi consiste l'amour du prochain, etc. Vous comprenez, on peut...
Non, parce que moi je peux vous apporter une réponse. Connaissant l'histoire de l'Asie, je peux vous dire qu'il y a autant de crimes et scandaleux dans l'histoire de l'Asie que dans l'histoire de terre chrétienne. Donc à ce moment-là, on peut se dire le mal est partout et renvoyer ça à l'homme. Ce qui n'est pas la démarche d'Onfray, puisque Onfray renvoie le mal au christianisme.
Il le renvoie au catholicisme et même au Vatican. Oui, parce qu'il ignore complètement, une des choses que je lui reproche, c'est d'ignorer complètement la tradition de la réforme et encore plus, si c'est possible, la tradition de l'orthodoxie.
Oui.
Et en plus, enfin, il se réduit au Vatican moderne parce que le Vatican n'était pas...
Oui, il y a une espèce d'obsession contre le Vatican.
Et d'autre part, les fautes, les crimes, tout ce que vous voudrez que les chrétiens ont commis ou qu'ils commettent, ne sont pas des arguments sont des arguments peut-être contre l'Église ou contre une organisation
ecclésiastique. Oui, mais ce n'est pas un argument contre le message évangélique. Mais...
Et puis ce n'est pas un argument en faveur de l'athéisme, et c'est ça que fait Onfray. Là, il y a un décalage intellectuel qui est très choquant, je trouve.
Oui, mais moi, je vais m'adresser à une chrétienne et je lui demande pourquoi 20 siècles de christianisme ne sont pas arrivés à donner des sociétés harmonieuses qui pratiquent plus la fraternité que la guerre.
Est-ce que vous croyez que les sociétés en question, à travers les âges, quel que soit leur régime, ont tellement envie d'une influence chrétienne? Il n'y a peut-être pas de société chrétienne.
Ah, puis il y en a eu qui se sont réclamés du christianisme.
Oui, mais ça, il y a eu des états de chrétienté, etc. Mais entre ça et la réalité de la foi, ça c'est tout à fait
autre chose. Voilà, donc il y a toujours une distinction entre le regard qu'on porte sur l'histoire et le regard qu'on porte sur la foi ou la religion elle-même.
Oui, je crois d'autre part que la religion en question nous invite à dire que qu'il y a quelque chose de tordu dans la condition humaine que l'Église, ou les Églises d'ailleurs, appellent le péché originel. Ce qui est en général une chose très très mal comprise, mais qui fait que même quand on essaye de faire le bien, ça tourne souvent très mal. Et si vous voulez, je ne crois pas qu'on peut voir, enfin en tout cas on ne voit plus certainement aujourd'hui l'histoire humaine comme un progrès continu, même des lumières, parce qu'il y a pas mal d'éclipses, si vous voulez. Il y a des efforts, et puis ça retombe, et puis ça recommence, et c'est pas très joyeux, ça je reconnais.